One, two, ten, check. It's okay. That's it, man.
Wait.
That's it, man.
Oreilles et oreilles, divergentes et divergents, autrement dit provoscopiennes et provoscopiens, chasseurs de margoulins déguisés en maîtres tolérés, enfin bref, anormaux et désordonnés, tout porte à croire par les temps qui courent que le monde tourne en rond, que Copernic aurait peut-être eu raison avant l'heure, il aurait dit vrai, tandis que le camarade Aristote n'aurait été que le pâle reflet de la réalité. Ça y est. Là, le loup qui se remet à débourronner, comme pourrait le proclamer doctement le renard qui reste planqué durant son hibernation hivernale dans la torpeur de la technique radiophonique. Et de s'agacer, il faudrait savoir de quoi on parle. Calmos, mon renard, on s'apprête à causer d'ordre et de désordre. De jeunes et de vieux, quoi. Mais à l'envers. Genre, les apports de papy aux petits poussés. Et de tenter d'expliquer à la première bolette venue ce qu'est une véritable duperie en revisitant cette date qui fit la France et que les historiens ont prénommée la journée des dupes. Et c'est quoi, mon bon monsieur, une duperie ? Eh bien, permettez encore une fois que cette émission donne du sens au son. Le plus bel exemple d'une duperie fut cette journée du 10 novembre 1631, appelée journée des dupes, par le comte de Serrant, au cours de laquelle celui qui devait être éliminé s'avéra être le vainqueur de la cabale organisée contre lui. Comme une pré-sorélisation de l'histoire de France, revisitée récemment à la source montpelliéraine. Ok ? Ok. Alors avant tout, et quoi qu'il en soit, permettez-moi de vous présenter mon jeune et fougueux invité. Non, permettons-lui de se présenter lui-même, car on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Alors qui êtes-vous, monsieur mon invité ?
Bonsoir Yves, et merci pour cette invitation. Je suis donc Sébastien Vallone, élève avocat à Montpellier et candidat aux élections départementales dans le canton de Montpellier 3. Et j'ai la chance d'être invité aujourd'hui de cette provoscopie pour le plus grand plaisir de nos auditeurs.
Il paraît que c'est un tueur de vieux. Domiac devrait se planquer. Bon, permettez un instant que je vous conte une micro-anecdote historique qui tilta et modifia le cours des choses au cœur de la France du XVIIe siècle, déjà italien. Histoire d'un concours de circonstances, d'une véritable duperie, d'une épopée distrayante, aux traces multiséculaires et géographiques, autrement dit, permettez-moi de vous conter une histoire spatio-temporelle. Allez, fermez les yeux et ouvrez vos esgourdes. Nous sommes à l'avant-veille du jour qui servira de date remémorative pour l'armistice qui mettrait fin à la première des guerres mondiales. Autrement dit, nous sommes le 9 novembre 1630, au cœur du règne de Louis XIII, le bras gauche du tandem concepteur de la raison d'État. En ces temps-là, malgré le bon père de bébé Louis XIII, qui avait cadré ses troupes protestantes sur la base d'un édit joliment titré de tolérance, il avait fallu recadrer ces gens-là par trop remuant, et les voisins luthériens ou calvinistes de s'étriper entre eux allègrement au cours d'une guerre d'iète de 30 ans. Pendant ce temps, les teigneux Habsbourg, eux, avaient encadré le royaume de France dorénavant coincé entre Espagne et Pays-Bas, en passant par la Bohême autrichienne. C'est alors que l'homme qui était droit dans ses bottes se manifesta auprès de Sa Majesté le Roi. Ce n'était autre qu'Armand Duplessis, le cardinal de Richelieu. Au nom de la raison d'État, il suggéra au roi de s'allier aux Allemands, Merkel, contre les Autrichiens, même si les premiers sont protestants, tandis que les seconds sont catholiques. Le sang du parti dévot, pré-sarkozisé, ne fit qu'un tour. Il fallait se débarrasser de cet importun venu, on savait le lui rappeler, de cet évêché crotté, celui de Luçon. Et par l'entremise de Marie, l'hispano-autrichienne, la mère du roi, avec l'aide et l'appui du pacifiste chancelier de Marsillac et lequel autre piloté par Gaston, le frère du roi, le complot prit forme. Il fallait en finir avec Richelieu, mais pour ce faire, encore fallait-il que le roi en décida ainsi. Mais le bon Louis, comme à son comme à son accoutumée, malade, resta vague quant à sa position sur la question, laissant à penser qu'éventuellement l'affaire pourrait se conclure favorablement pour les conjurés. Ce fut sans compter avec le sémillant cardinal. Le lendemain, le 10 novembre, alors que la reine-mère l'avait dépouillé de ses fonctions d'aumônier de la reine et qu'il semblait perdu, il entendit le roi affirmer qu'il préférait un laquais comme Richelieu à sa propre mère. Certes, le cardinal était allé jusqu'à s'agenouiller devant le roi, quitte à verser moult larmes et baiser juste la robe de la mère. Pourtant, parti sans mot dire dans son pavillon de chasse 6 à Versailles, les dévots avaient cru en leur victoire, félicitant la reine-mère et multipliant les bons offices et les nominations. Ils ne savaient pas que le cardinal s'était rendu au pavillon et que le roi l'avait plaisamment accueilli, embrassé, poutouné et renouvelé sa confiance. Décidément, le roi préférait son état à sa mère. Enfin, le 11 novembre, les dés furent jetés. Les comploteurs arrêtés. La reine-mère enfermée dans ses appartements avant d'être exilée. Gaston parti se planquer en Lorraine et Guise pèlerina à Rome. Les autres, enfin, eurent un billet pour la Bastille. Cela fit dire à Guillaume Bautru, le comte de Serran, c'est la journée des dupes, la vengeance de Richelieu, qui sera dorénavant évoquée dans plusieurs romans ou essais historiques, signés Honoré de Balzac, Jean-Michel Rioux ou Robert Merle. Bref, autrement dit, tel est prix qu'il croyait prendre. Dans la série, il faut pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Ou encore, qui vivra verra. Réactualiser cette comptine poético-politique pourrait, devrait servir de leçon aux jeunes loups. À savoir, on ne meurt jamais en politique. Faute d'être mort et enterré. Que de renaissance, que d'aucun pensée improbable a-t-on vu. Et s'il ne fallait en citer qu'un, ce pourrait être notre métropolite préféré, le barbier du Clapas, Philippe Sorel. Alors quid des autres ici-bas, les Domergue et autres Julien, les Fraîches et autres Mours et tant d'autres encore. Essayons d'en discuter un moment avec notre invité. Il dit quoi notre invité Sébastien Avallon, notre UMPiste? Lançons-lui avant tout une poignée de questions afin de voir s'il sait les saisir au bon.
Je suis un vrai Gaulois, je n'ai qu'une peur, c'est que le ciel me tombe sur la tête.
Alors Sébastien Avallon, bien le bonjour, candidat UMPiste, comme ça qu'on dit. UMP de droite, sur la troisième, pas circonscription, le troisième canton, nouvellement redécoupé. C'est assez bien ça, je ne me trompe pas, parce que là, avec les nouveaux cantons, je finis par m'embrouiller complètement de qui est sur quel canton, etc. Donc c'est un canton qui, grosso modo, qui va de où à où?
C'est le plus beau canton de Montpellier. C'est pas pour rien que j'ai voulu m'y présenter. C'est un canton qui prend tous les quartiers autour de la Comédie, le vieux centre historique de Montpellier, le boulevard Louis-Blanc, les Beaux-Arts, Boutonnet...
Ah donc là, on est en plein dedans, là.
Ah là, on est en plein...
On est en plein dedans.
Pas exactement. Je vais vous dire...
Ah, boulevard Louis-Blanc, mais pas Pasteur.
Boulevard Louis-Blanc, mais
okay,
pas
bazar.
Pasteur.
Ok, bazar.
Et seulement un côté du boulevard Pasteur. Il faut bien découper quelque part, il n'y a pas de limite naturelle. De l'autre côté du boulevard Louis-Blanc... En phase de divergence.
S'il y a des limites naturelles à Montpellier, la droite dehors et la gauche dedans. Ça, c'est la limite naturelle, non?
Oh, c'est la limite qu'on va faire changer. C'est ça, le renouveau.
Non, alors, on va partir sur le plan purement historique, puis après, on va recoser politique et tout ça. Bon, elle n'est pas belle, mon histoire. Elle n'est pas pédagogique, mon histoire. La journée des dupes, Richelieu et tout ça. Quelle morale vous en tirez?
Vous savez, moi, quand vous m'avez invité, vous saviez que je n'étais pas historien, sinon vous auriez peut-être invité de Paul Valéry, Serge Brunet ou Dominique Bilogui. Non, vous m'avez invité parce que...
Oh, Dominique Bilogui, non, il est trop vieux maintenant.
Oh, il est en...
Il est aussi vieux que moi.
il est bien en âge de venir discuter à la radio. Non, si vous m'avez invité, c'est parce que je fais de la politique à Montpellier.
Bien sûr.
Et pour moi, l'histoire, ça sert surtout à faire des parallèles, à savoir... anticiper les relations futures, anticiper les situations futures en regardant ce qui s'est passé par le passé.
Mais vous êtes juriste.
Je suis juriste non. également.
Et vous avez quand même fait, notamment au moins en première année, peut-être même en deuxième année, de l'histoire du droit.
Un petit peu avec le professeur Jean-Marie Carbas, qui s'il nous écoute, je le salue.
Voilà. Et donc en l'occurrence, au niveau de l'histoire du droit, vous avez forcément dû aborder à un moment ou à un autre la raison d'État, qui est... Les historiens caricaturent vont un peu vite. Une invention de Richelieu et de Louis XIII. C'est un peu vite comme caricature, mais il y a un peu quand même quelque chose là-dedans qui peut expliquer que deux individus, Louis XIII, Richelieu, qui ne s'aimaient pas, qui ne s'entendaient pas, qui ne s'appréciaient pas, mais qui avaient tous les deux le sens de l'État au point de passer outre leurs sentiments personnels et de gouverner ensemble.
C'est ce qui a valu...
C'est ce que l'UMPS n'est pas capable de faire, non ?
C'est ce qui a valu cette déclaration au roi. Je suis plus attaché à mon État qu'à ma mère.
Voilà.
Est-ce que l'UMPS, ce que l'expression qui est devenue celle du maire de Montpellier et du Front National...
Que je reprends Louis XIII, Richelieu, UMPS, enfin, des gens qui, a priori, ne s'aiment pas, ne s'apprécient pas, etc. Mais qui, Louis XIII, Richelieu, ont été capables de gouverner ensemble pour raison d'État pour la France, ce qui n'est pas le cas ni de l'UMP, ni du PS, à Montpellier comme ailleurs. Et c'est ce que Léon Blum, dans les années 50, appelait la troisième force de ses voeux. Le rejet des populismes et des extrémismes.
Le rejet des populismes et des extrémismes, c'est aussi savoir assumer son positionnement politique. Et aujourd'hui, droite ou gauche, contrairement à ce qui peut être avancé par d'autres, ça veut encore dire quelque chose.
Non, attendez, on recommence tout. On recommence tout. Normalement, c'est pas comme ça que ça se passe. La droite nous dit qu'il n'y a pas de différence entre la droite et la gauche. C'est la gauche qui dit « si, c'est pas pareil ». Alors si maintenant la droite se met à avoir un discours de gauche, on ne comprend plus rien.
Non, c'est la gauche qui se met à avoir un discours de droite. On les inspire au fur et à mesure. Mais on ne va pas rentrer dans ce petit jeu de mots.
Deuxième partie, c'est pas un jeu de mots, c'est un jeu de concept. Et ça va justement relativement loin avec bébé Macron, par exemple. Bon, on va essayer de lister ensemble.
Allez.
Une poignée de Richelieu d'hier pour aller jusqu'à aujourd'hui. Tiens, par exemple, celui dont on disait à l'époque, le « on » était Napoléon, c'est une merde dans un bas de soie. Je parle pas de Patrick Vignal, hein, je parle de Talleyrand. Alors Talleyrand, c'était au niveau dupe. Ou dupeur, ou... il était fort celui-là, il a traversé tout, de 1789 à pratiquement 1848, il a tout traversé. Louis-Napoléon qui deviendra Napoléon III, dont Thiers disait de lui, c'est un crétin que l'on mènera. Et lui aussi, il en a niqué plus un. Est-ce qu'on pourrait pas en citer d'autres encore ? Sans en arriver, et on y arrivera forcément, jusqu'à Sorel. Sorel, dont tout le monde lui donnait 2%. Et les plus clairvoyants, c'est tout dire, lui donner 3%. Le garçon, il a remporté la mairie. Alors, est-ce qu'il y en aurait d'autres ? Est-ce que c'est pas le lot commun, tout simplement, des vrais politiques que d'être des Richelieu ?
Eh bien, écoutez, j'espère être Richelieu à ma façon lors de cette élection. Vous savez, vous faisiez le parallèle avec Jacques Domergue et entre Jacques Domergue et moi-même. Vous savez que j'ai été son conseiller pendant 2 ans.
Aïe, ça c'est con pour lui, ça.
Et
vous êtes le Sarkozy de Chirac, alors ?
Je suis...
Le Fabius de Mitterrand ?
Je suis celui qui a travaillé avec
lui. Le Pompidou de Gaulle ?
Et la personne qui le soutient, tout naturellement. Vous n'avez pas encore vu sa tribune de soutien à mon égard, mais je vous invite à la découvrir sur le site héros-2015.fr, celui de ma liste aux élections départementales, ou sur la partie de mon canton, il exprime son soutien clairement à ma candidature. Alors voyez-vous, je suis peut-être, avec un peu de chance, et sans être trop présomptueux, parce que je me garderai bien de ce genre de comportement. Mais j'espère être, à ma façon, une sorte de Richelieu, de celui qui a été le roi de la droite à Montpellier pendant 10 ans, avec les réussites, pendant 12 ans même, avec les réussites et les échecs, mais... Cette personne qui a été le leader de droite à Montpellier, j'espère avoir été un bon conseiller dans les moments où il a fallu choisir des couleurs de campagne, un slogan de campagne, et puis j'espère être aujourd'hui un bon successeur.
Et donc celui que vous allez duper, c'est pas Jacques Domergue, c'est Arnaud Julien alors.
Oh, Arnaud Julien, c'est le secrétaire départemental de l'UMP. Ouais. Je ne me permettrai pas de le duper d'une quelconque façon, c'est un ami.
Bon, il l'est au moins jusqu'au départemental. Peut-être pas jusqu'au régional. Donc c'est quand vous allez prendre le pouvoir sur l'UMP local ? C'est juste après les départementales et avant les régionales ou...
Vous me voyez avec des muscles plus importants que ce que je n'ai.
Non, muscleur, c'est pas vous, ça, c'est votre candidat UDI sur votre canton, c'est M. Tsagalos. C'est lui, muscleur.
jamais entendu parler.
Oh là, vous allez nous la jouer fraîche, qui en 95 disait, à propos de son concurrent de droite, Maître Christol, j'avais demandé à Fraîche, est-ce que vous acceptez un débat et tout? Il me dit, avec qui? Ben, j'y vais avec votre concurrent de droite. Il me dit, je sais pas, c'est qui?
Ah, mais si vous me demandez si j'accepte un débat contre Philippe Sorel, je veux bien. Au moins avoir l'adversaire à la hauteur.
Mais Philippe Sorel ne se présente pas. Le débat que vous pouvez avoir, c'est avec Maud Botkin ou...
Je ne connais pas non plus.
Oui, bah qui est adjointe, non, mais je ne sais pas quoi.
C'est quand même fou, parce que dans cette élection, on présente des candidats avec les photos d'un autre. Alors moi, j'ai le sentiment qu'il n'y a qu'un seul candidat à Montpellier pour les divers gauches. C'est Philippe Sorel.
C'est le côté sarkozyen d'il y a quelque temps, où on mettait une photo Sarkozy quand on était candidat à UMP, quoi. Et puis après, arrivé un moment, on a gommé, mais ça c'est Khrouchtchevien, ça c'est soviétique, on a gommé Sarko, on a gommé UMP, parce qu'à un moment, c'était plus tout à fait de bon ton de dire qu'on était de l'UMP. Aujourd'hui, c'est le cas du PS, mais enfin, c'est le cas de toute majorité. Lorsqu'elle est au pouvoir, il vaut mieux qu'elle oublie, qu'elle fasse oublier qu'elle est au pouvoir, parce que les gens risquent de, s'en prendre à eux.
Pour ceux du troisième canton qui ont sûrement, sauf quelques-uns que je ne suis pas encore passé voir, mais la majorité du troisième canton a reçu mon tract, ils verront que j'ai tout à fait assumé mes couleurs politiques. Je suis un candidat de droite. Je suis le candidat de droite et du centre à Montpellier avec un binôme, Aline Bouix, qui est une femme issue de la société civile. Il y a 2 mois, elle n'avait jamais fait de politique. Mais c'était une femme qui avait envie de s'engager.
Ah, c'est pour ça qu'elle est de droite.
Parce qu'elle est un peu maligne. elle a une vie professionnelle très riche à côté, qui lui a donné le souhait de s'engager au service des autres. Et puis pour rendre un petit peu au pays ce qu'il lui a apporté en matière de réussite professionnelle. Donc, vous avez vu sur mon tract... J'assume mes couleurs politiques. Et alors, pourtant, je n'ai pas mis la photo de Nicolas Sarkozy. Et pour la simple raison que si vous avez lu 20 minutes le mois dernier, vous avez vu que Bruno Le Maire est venu me soutenir à Montpellier. Parce que je suis le représentant à Montpellier de Bruno Le Maire.
Il a bien dit 20 minutes, il n'a pas 10 minutes. Il ne faut pas confondre. Ah, reparlons du prix.
Allez.
Et justement, et du prix notamment pour l'UMP, même si c'est aussi vrai pour le PS. Est-ce que la plus belle du prix à venir, c'est-à-dire d'ici un mois, quasiment jour pour jour, et s'il ne risque pas de venir, d'un front encombrant, celui qui est couleur bleu marine. D'autant que Sarkozy croyait l'avoir tué, justement, en tirant sur le père, en 2007, où on avait entendu tout. Vous savez, Sarkozy avait tué Le Pen était descendu à moins de 10%, ça y est, encore 5 ans, et puis on n'en parlait plus. Au bout du compte, il ne l'a pas tué, puis alors la fille, elle est même en verve. Même si, encore une fois, il faut le redire, le FN ne gagne pas une voix. Il gagne des pourcents, parce que les électeurs, de plus en plus, s'abstiennent. Bon, c'est pour ça qu'il y a une espèce d'illusion d'optique, mais n'empêche. Est-ce que ce n'est pas le risque majeur? On l'a vu dans le Doubs, pour vous, l'UMP. Très récemment, une dizaine de jours, où l'UMP avec son Nini, est-ce que c'est crédible, cohérent? Vous auriez été électeur dans le Doubs, vous faisiez quoi? Vous votiez pour le socialo? Vous votiez pour le FN? Ou vous vous absteniez?
Moi je vais vous dire, je respecte tout à fait le positionnement de mon parti au niveau national.
Mais si ça nous permettra de savoir ce que vous allez faire au deuxième tour. Pour la troisième circonscription.
Ah, mais ce que je vais faire au second tour, je vais appeler tous ceux qui veulent le renouveau à voter pour moi, parce que je serai au second tour. Et j'entends même être en tête au premier tour. Mais on reparlera de ça après.
Oui.
Je crois que le rôle des partis politiques, et là, vous me demandez mon opinion personnelle, je vous la donne. Le rôle des partis politiques, c'est aussi d'être prescripteur d'idées. De proposer une idée. Et quand on dit « ni-ni », ça veut dire... on perd une seconde fois, on renonce même à la possibilité de faire une proposition et de proposer une idée meilleure qu'une autre. Moi, je vais vous dire mon positionnement. D'un point de vue politique, notre adversaire aujourd'hui, avec la disqualification de la gauche au niveau national et au niveau local, notre adversaire politique, c'est le FN. Et comme c'est notre adversaire politique, et c'est mon adversaire politique le plus médiocre sur le terrain, mais c'est une réalité... qu'on constate, un adversaire politique, il faut le faire perdre. C'est plus une question de gauche ou de droite, C'est une question de personnes qui sont capables d'apporter des réponses concrètes.
Un espèce de front républicain. Vous en attendez autant de la part des socialistes dans le cas contraire. Mais c'est ce que les socialistes et les communistes ont fait durant toute la Troisième République, Quatrième République et une bonne partie de la Cinquième. C'est-à-dire le désistement, éventuellement chacun se présentait, mais celui qui arrivait en tête au premier tour se maintenait et l'autre votait pour lui pour battre. À l'époque, c'était le candidat de droite, peu importe. Mais là, il y avait, alors que pourtant, socialistes et communistes étaient plutôt des frères ennemis que des amis. Et c'est là où... Regardez la gauche en 2002.
Et moi, vous savez...
Ni l'une ni deux, elle a appelé à voter Chirac. Et pourtant, ça leur a fait mal. Non. Et là, cette espèce de nini, cette hésitation. Donc, allez, je traduis, je synthétise. Vous êtes juppéiste, mais pas vraiment sarkozyste.
Non, je suis supporter de Bruno Le Maire. Et la troisième voie, vous en parliez tout à l'heure.
D'accord, ok.
Ça sort un petit peu des débats convenus.
Non, c'est
une réalité.
Donc en l'occurrence, mais ça on en parlera un petit peu après quand on parlera au niveau de plus national et choses comme ça. On parlera économie, on parlera utilité marginale. Je ne croyais pas que vous compreniez, vous saviez ce qu'était l'utilité marginale avec Bruno Le Maire. Je pense que je me suis trompé là-dessus. Parlons des dupeurs. Et à gauche, est-ce que les Mours, De La Fosse, Vignal, pour n'en citer que trois, est-ce qu'ils sont vraiment morts définitivement ou est-ce qu'ils ne pourraient pas renaître? On pourrait le dire de Domergue, de Arnaud Julien, aussi de la même façon à droite. Est-ce que ce n'est pas tuer un peu vite ces gens-là?
J'ai parlé pour la première fois avec Jean-Pierre Mour il y a peu de temps à un repas, on s'est croisés et il m'a dit « En politique, on n'est jamais mort ». Donc, à l'entendre... Il ne se considère pas comme mort. Et tant mieux pour le débat républicain. Mais il va falloir qu'il se mette à faire un petit peu de politique et à se mêler concrètement des affaires de la ville. Parce qu'il est quand même élu. Et j'ai dû entendre sa voix maximum une ou deux fois à la mairie et à la métropole. Concernant De La Fosse et Vignal, moi, j'appelle les candidats de droite sur le deuxième canton de Montpellier à faire battre celui de La Fosse qui a l'air de se démarquer comme le leader de gauche à Montpellier. Eh bien, j'appelle les candidats de droite à battre ce leader de gauche.
De La Fosse, il vous adore. Il m'a dit, il y a 8 jours, « Oh, mais Sébastien Avallone, c'est mon meilleur ennemi, il est brillant. » Oh, quand même.
Ah ben, que je sois son meilleur ennemi...
J'ai dit, tiens, faut que je lui téléphone à ce Sébastien.
Que je sois son meilleur ennemi, c'est très bien. Mais j'entends qu'il ne gagne pas, parce que... À part refaire un débat municipal, je ne vois pas ce qu'il fait dans cette campagne. Et proposer des débats, c'est bien beau, mais il faut qu'il fasse campagne un petit peu, qu'il soit à l'écoute des Montpelliérains. Moi, je lui conseille d'aller écouter les Montpelliérains plutôt que d'être dans les grands principes et les tweets et les Facebook. Il faut faire campagne maintenant.
Ah, pour conclure sur nos duperies en tout genre, la raison d'État, est-ce que c'est moral ? De se cacher, de se réfugier derrière la raison d'État pour prendre toute décision, quelle qu'elle soit.
Est-ce que c'est moral? Moi, je crois aux choses, je crois au concret. La morale, c'est un petit peu abstrait.
C'est concret. Quand on vend des rafales à l'Égypte, c'est tout ce qu'il y a de plus concret. Ça, c'est la raison d'État. Bon, et là, on peut le reprocher à Hollande. Enfin, on pourrait en reprocher autant à Sarkozy en son temps, à Chirac, à Mitterrand, à qui on veut.
Qu'on vende des rafales à l'Égypte, je trouve ça très bien. Simple, tant que ça reste des alliés, vendre des rafales à nos alliés ou à nos partenaires économiques, il n'y a pas de problème, il faut bien faire marcher nos industries. Par contre, vendre des rafales à des gens qui peuvent être potentiellement nos adversaires, attention.
Il suffit de ne pas leur donner le manuel d'utilisation. C'est ce qu'on avait fait avec l'Irak, à l'époque de Saddam Hussein. Comment est-ce que vous imaginez l'avenir en matière politique? Sans Dupri? Honnête? Intègre?
C'est justement pour ça que je me suis engagé en politique.
Bon, c'est pas sérieux.
Non, c'est sérieux.
C'est pas envisageable.
Allez.
On se demanderait même, est-ce que c'est souhaitable?
C'est souhaitable. Et c'est ça le renouveau que je veux porter à Montpellier. C'est souhaitable parce que les petites phrases, les luttes où on se tire constamment dessus entre vraie gauche, fausse gauche, les Montpelliérains en ont marre. Les Montpelliérains, ils veulent qu'on leur propose un projet. Et c'est souhaitable parce que aujourd'hui, le renouveau, c'est être capable de proposer un nouveau projet pour Montpellier, une nouvelle vision du territoire, sans être obligé de singer ou de recopier celui qui a été un grand maire, mais Georges Frêche, c'est fini de recopier. Maintenant, il faut être capable de proposer. Arrêtez d'essayer de faire exactement les mêmes gestes que lui.
Bon, alors, supprimons ce mot « Dupris », il ne vous convient pas. Oh, bon, j'en prends acte. Alors, on va le remplacer par un autre mot, je vais vous en proposer 5.
Allez.
Vous me dites lequel vous préférez à la place de Dupris, pour savoir quel avenir vous nous préparez. Imposture ? Tromperie ? Supercherie ? Mystification ? Ou escroquerie ? Ce sont 5 synonymes.
Escroquerie, non. Surtout pas. Mystification, je pense à Alex Larue. Avec Alex, je vais vous donner une petite anecdote. Alex, qui est élu, est mon partenaire. J'étais à un match de rugby avec lui, et dans les loges, il y a un type qui se présente à moi en me disant « je m'appelle un tel ». Et Alex me dit « c'est qui ?» Je fais « mais c'est un tel ». Il me fait « ah là, tu m'as fait le coup de Joe la Mistif ». Joe la Mistif, c'est celui qui fait croire à l'autre qu'il sait tout alors qu'il sait rien. Ah. C'est ce que je fais souvent à Alex Larue, j'essaie de lui faire croire que je suis au courant des sujets alors que pas trop.
Ah, et donc mystification, d'accord.
Mystification, c'est, je pense, un talent politique.
Non, Sébastien le mystificateur, oh, c'est pas mal.
Être capable d'improviser sur un sujet, je crois que c'est un talent politique. Être capable de faire passer un message, de garder sa ligne tout en improvisant complètement sur un sujet... Vous savez que je ne suis pas historien, cette journée des dupes, faire une émission sur ce sujet, c'est de la mystification.
Bon, très bien, ok. Alors, donc, on retient l'avenir UMPiste Montpellierain, selon Sébastien Vallon, sera plutôt fondé sur la mystification que sur la duperie.
Bon, il faut bien vous donner un défaut. Trouvez-moi des qualités, j'apprécierai davantage.
Ah, mais c'est pas forcément un défaut. Ça peut être une façon aussi de faire de la politique. Est-ce que Machiavel, la politique de Machiavel était un défaut en soi ? C'est pas forcément certain. En tout cas, quoi qu'il en soit, est-ce que vous êtes d'accord, et on en finira là-dessus, est-ce que vous êtes d'accord avec juste une idée ? Dénoncer une imposture, est-ce que c'est rétablir la vérité ?
Pas forcément. Dénoncer une imposture, c'est dénoncer une imposture. Dénoncer que des tracts... recopie la charte graphique municipale qui a été modifiée 3 mois avant que les tracts paraissent, c'est dénoncer une imposture. Mais c'est pas pour autant rétablir la vérité.
Bon, eh ben, on va faire une petite pause musicale avec un espèce de morceau curieux, un bidule qui s'appelle Tel épris qu'il croyait prendre, et puis d'un individu curieux lui aussi, puisqu'il s'appelle Arsène Lapin. C'est comme Dédé, celui du département. C'est bien, l'histoire c'est bien, mais la politique c'est mieux. N'est-ce pas, Sébastien Vallone, jeune homme, mon invité ? Mais permettez-moi, avant d'aller plus loin, de brosser à grands traits le personnage que je perçois poindre chez vous. Vous êtes le meilleur ennemi du fils que Georges Frêche n'a pas eu, Michael Delafosse. C'est pour moi qu'il dit, mais lui-même. Est-ce que ça vous flatte ? Si vous avez appris à maîtriser la rhétorique, les fondements du néoclassicisme en économie de marché vous semblent pas forcément connus. En effet, comment peut-on être UMPiste à 20 ans quand les utilités marginales vous tendent les bras ? Même Ramayad l'avait compris. Enfin, il se dit que vous seriez tolérant. Je vous crois plutôt respectueux, notamment envers quelques musulmans dont on pourrait devenir le gendre. Ah non, je déconne, je plaisante. Bref, qui êtes-vous, monsieur, mon invité Sébastien Vallone ? Et que gagne-t-on à vous connaître ? Écoutons cela au détour d'une trilogie de questions qui élèveront le débat en partant de Montpellier pour atterrir sur la Terre après une escale en notre douce France. Nous allons bavarder, si vous en convenez, de l'improbable départementalisation de la métropole, de l'impossible désumpéisation de la vie politique parisienne, mais aussi de la duperie, de la charlisation sociétale, ici et là-bas.
C'est ça être focus. Si je perds, ce sera moi qui perdrai. Si je gagne, ce sera le PS qui gagnera.
Vous avez vu comme je suis malin et focus en plus.
Bon, un petit clin d'œil à notre grand Georges. Et parlons d'une question bien méridionale, l'improbable départementalisation de la métropole. C'est la lutte du pot de terre contre le pot de fer. La métropole aura toutes les compétences. Le département sera donc une chambre de redistribution de la misère. Alors, du coup, votre programme, c'est une mystification ou une supercherie ? Quand vous nous parlez de culture, de sport, de je ne sais trop quoi, puisque de toute façon, le département n'aura pas ces pouvoirs-là. Il aura juste le pouvoir de redistribuer du RSA, de l'APA, et puis des choses comme ça. Bref, on sera une espèce d'agent de comptoir élu. Bon, pourquoi faire un programme ? Un programme où on l'avait fait passer là, d'une page entière, qu'on trouve d'ailleurs sur votre site internet. Voilà. Et ce qui est vrai d'ailleurs pour vous, l'UMP, sur le troisième canton, c'est vrai pour le candidat PS, c'est vrai pour le candidat machin, le candidat bidule, le candidat truc. Les seuls à la limite qui disent « vrai », entre guillemets, ce sont les petits bébés Sorel, les petits lapins, comme il les appelle lui-même, qui disent en gros « votez pour nous, de toute façon on foutra rien, c'est Sorel qui fera tout ». Bon. Alors, comment est-ce que vous voyez ça ? Parce que franchement, justement, il faut arrêter un peu les mystifications. Ça va être quoi votre programme ?
Les compétences du département seront fixées précisément dans le débat parlementaire qui n'est pas terminé. Alors je sais que c'est regrettable d'avoir une élection où on ne sait pas si en cours de mandat la réalité des compétences du département seront les mêmes que celles qu'elles sont au moment de l'élection. Mais moi je me fonde en priorité sur ce que sont les compétences au moment de l'élection. Et mes compétences en tant que futur conseiller général, ce sera la politique pour les collèges, sur la voirie, la politique en matière sociale, la politique en matière d'aide à la personne, aide pour le handicap, minimum vieillesse.
Ah, pour les 9 mois qui viennent, c'est vrai. Ça a pris 9 mois sur 5 ou 6 ans.
Également en matière de culture, nous avons une compétence. Mon programme, je ne l'ai pas encore dévoilé. J'ai fait une conférence demain matin à 10h30. Vous y êtes invité avec plaisir.
Où ça ?
Au Café Z, mon QG, place Jean Jaurès. Parce que le club de la presse était occupé.
Mais pas au Café Joseph.
Non, pas au Café Joseph.
Ah, donc vous n'êtes pas modem.
Je suis UMP. Et mon repère, c'est le Café Z, parce que, voyez-vous, mon remplaçant, parce qu'on ne dit plus suppléant, mon remplaçant, Guillaume Cousinier, travaille dans cet établissement, et il est né à deux pas de là, aux trois places Jean Jaurès, chez son père Régis, qui fait les moules frites. Vous voyez, on est des candidats de droite, divers droite avec mon binôme, société civile avec mon binôme, et tendance place Jean Jaurès.
Alors, parlons de Montpellier 3, c'est-à-dire le canton sur lequel vous vous présentez. Les analystes, les politologues quoi, avertis, donnent 5 cantons sur l'Hérault assurés pour les socialistes. Ce qui fait pas beaucoup quand même sur 25. Voilà. Mais parmi les 5 cantons, soi-disant, d'après les analystes, les politologues assuré pour les socialistes, il y a mon pôle étroit. C'est le vôtre. Vous êtes foutus. Selon les analystes.
Moi, je crois pas aux
analystes. Un commentaire ?
Oui, je crois pas du tout aux analystes. Les analystes, ils font des analyses, moi, je fais de la politique. Et dans ce canton, je les vois, je vais les chercher une par une.
Voilà. Mais Emmanuel Négrier est un branleur, alors.
Hein ?
Emmanuel Négrier est un branleur.
Il fait de l'analyse. Mais regardez, et là...
Emmanuel, si tu nous entends...
C'est faire honneur à cet adversaire. Mais regardez Philippe Sorel. Personne n'avait prédit sa victoire. Et pas du tout les analystes. Et pourtant, il l'a fait. Eh bien, je vais faire la même chose. Vous savez, vous êtes un journaliste connu sur Montpellier. Vous savez que c'est souvent celui qu'on ne voyait pas arriver.
Non, pas connu, méconnu.
En tout cas, reconnu. Mais vous savez que c'est celui qu'on ne voyait souvent pas arriver, qui au final arrive vainqueur parce que ça permet d'éviter les crocs en jambes.
Alors justement, à propos de futur, de ça, de qui va gagner quoi, moi j'ai une question toute simple, avec une réponse s'il vous plaît toute simple. Quand comptez-vous prendre le pouvoir à l'UMP dans l'Hérault ? Après les départementales ou avant les régionales ?
Moi je porte un peu plus qu'une simple question de pouvoir à l'UMP. Je porte le renouveau
Julien,
pour
Julien, ça fait 20 ans qu'il perd toutes les élections, même les plus imperdables. C'est-à-dire les législatives de 2012, dont Marleix avait taillé une circonscription spéciale pour Arnaud Julien. Pouf, il se prend la plus grosse veste que la droite ait prise en 2012. Il perd avec 45% contre l'improbable Assaf. Et puis alors ensuite, en 2014, au municipal... Alors que Madame Santonja lui donne cadeau la mairie de Juvignac, imperdable pour la droite et par la droite, eh ben si, il la perd. Bon donc, Sébastien,
moi, vous savez,
Avalon, si jamais il gagne la troisième, si jamais il gagne, ou s'il a un résultat même cohérent, honorable, plus qu'honorable, il va vouloir prendre le pouvoir à l'UMP, pourquoi pas ? C'est ce que craint d'ailleurs Michael Delafosse, parce que Sébastien Avalon, l'élève avocat, de la fausse, ça, il s'en fout. Sébastien Avalon, le futur leader de l'UMP dans l'Hérault, là, de la fausse, il n'aime pas trop ça. Il préférait un Domergue pas brillant, et puis un Arnaud Julien qui n'a jamais dépassé le bac plus 2. Quoi.
Vous êtes un peu dur avec mon ami Arnaud.
Mais non, on l'aime bien, ça, copain.
Laissez-moi vous dire quelque chose. Une des qualités essentielles en politique et vis-à-vis des électeurs et dans la vie en général, pour moi, c'est la fidélité. Et Arnaud, c'est mon ami, il a beau avoir perdu une élection, ce qui arrive...
Et à l'UMP, les amis de 30 ans, c'est ce que c'est. Hein.
Oui, mais moi, j'ai une conception renouvelée de la politique. Et quand j'ai un ami, je ne l'abandonne pas au premier échec. Eh bien, Arnaud, c'est mon ami. Et il a beau avoir perdu une élection, ça arrive. Quand on ne se présente pas aux élections, c'est sûr qu'on ne perd jamais. Quand on ne se met jamais sur son nom, c'est sûr qu'on ne perd jamais sur son nom. Eh bien, il a pris un risque, il en a subi les conséquences, il continue aujourd'hui d'accuser le coup, je le sais, et pourtant, je continuerai de le soutenir parce que c'est un ami.
C'était ça, Sébastien Avalon, le mystificateur. Alors là, encore un petit jingle.
C'est ça, être focus. Si je perds, ce sera moi qui perdrai. Si je gagne, ce sera le PS qui gagnera.
Vous avez vu comme je suis malin et focus en plus.
Bon, votre mouvement, l'UMP, a tout fait depuis 2000, c'était encore le RPR, et 2002 pour renforcer la bipolarisation en France. Vous êtes, quand je dis vous, l'UMP, responsable de la montée des populismes, dont le FN, qui rejette ceux qui se sont entendus sur cette question-là, c'est-à-dire les libéraux chrétiens-démocrates et les sociaux-démocrates. Si le FN monte, ça aurait pu être le front de gauche, mais on n'est pas en Grèce ou en Espagne. Donc là, c'est le Front National qui monte. Vous, l'UMP, au même titre que le PS, vous êtes co-responsable de cette montée du FN. Encore une fois, le FN ne monte pas, c'est l'abstention qui monte. Donc c'est vous qui diminuez et les autres qui se maintiennent. Non, c'est vous qui vous effondrez et non pas le FN qui monte. Ça vous rassurerait, PS comme UMP, que le FN monte. Il ne monte pas. C'est vous qui vous effondrez.
Je vous rejoins sur cette question. Le FN profite des erreurs et des ratés de la politique que nous avons pu mener droite et gauche. Ça ne veut pas dire que c'est un système, contrairement à ce que peuvent dire le FN et Philippe Sorel, les populistes. Ça ne veut pas dire que c'est un système. Ça veut simplement dire que nous avons eu des échecs. et qu'il faut en tirer les conséquences. Quand Bruno Le Maire est venu à Montpellier, il le disait très bien aux quelques rédactions qui étaient présentes, c'est la progression du FN, c'est notre effondrement, je vous rejoins. L'illustration du canton de Montpellier 3 prouve cette réalité. Dans mon canton, au moment des municipales, on a fait une belle campagne. On fait 3600 voix, le FN 1800. On les surclasse. Au moment des européennes, on fait une campagne pas terrible. On fait pas campagne. L'UMP fait 1850 voix et le FN 1900. Finalement, il n'y a pas eu une immense progression du FN. C'est une poignée de voix. Simplement, l'UMP, sur cette élection, en pleine affaire nationale, Big Malion, avec une campagne qui n'est pas menée, etc., alors que l'UMP se décompose à ce moment-là, eh bien oui, on s'est effondré et le FN est resté stable. À moi, candidat dans le canton de Montpellier 3, de savoir dire aux électeurs UMP et aux électeurs de droite, comme aux autres, que je suis capable d'incarner une nouvelle génération politique pour la droite à Montpellier.
Qu'est-ce qui vous différencie véritablement, non pas à Montpellier, mais au niveau national, du FN ? L'ordre ? Non. La quête d'un chef ? Non plus. Vous en avez trouvé un, Bruno Le Maire. La vision croisée de la guerre contre l'islamisme ? Toujours non. Peut-être la référence UMPiste à Jean-Paul II ? N'ayez pas peur. Tandis que le FN se référerait plus volontiers à Mgr Lefebvre. Peut-être encore la tolérance UMPiste face à la laïcité frontiste. Mais surtout votre libéralisme mondialisateur contre le protectionnisme providentiel étatiste. Alors, il y a des moments quand vous vous différenciez du FN, mais je crois que vous êtes socialiste, je comprends plus. Vous êtes quoi, l'UMP ? Quand vous n'êtes pas frontiste ou socialiste ?
À l'UMP, les deux valeurs qui pour moi...
Vos papiers, sortez vos papiers.
À l'UMP, les deux valeurs qui pour moi incarnent le mieux ma famille politique... C'est l'ordre et le mouvement. Et c'est cette notion d'ordre...
La divergence, on n'aime que le désordre.
C'est cette notion d'ordre qui me différencie des socialistes et cette volonté d'offrir aux citoyens, aux Français, aux Montpelliérains, une capacité à leur garantir la sécurité. C'est la première des libertés. C'est la raison pour laquelle on met en commun chacun un petit bout de sa puissance.
Mais c'est quoi c'est un ordre nouveau que vous voulez faire ?
Non, c'est un ordre.
D'accord, c'est un ordre.
Bon, et le mouvement, c'est ce qui me différencie du FN. Moi, je ne suis pas dans le constat d'un échec où je dis, ouais, y a tel problème. Le mouvement, c'est savoir réformer, prendre les mesures nécessaires et pas simplement être en train de crier. Eh bien, voilà la différence entre le FN et nous. Nous avons une responsabilité de parti de gouvernement, c'est-à-dire une responsabilité de proposer des mesures concrètes. Quand j'entends sur les marchés les gens qui me disent « Oui, j'en ai marre, je vais voter FN aux élections départementales », mais ils ne joueront pas sur l'immigration avec le Conseil général. Ils jouent le Conseil général, les compétences, je les ai dit tout à l'heure, les collèges, les routes, les transports, un petit peu le sport et la culture, et la politique en matière sociale. Le FN ne fera rien de plus que nous sur ces élections-là.
Alors, le mouvement, effectivement, ça j'ai remarqué que c'était un des mots clés au niveau de votre campagne, le mouvement. Et c'est assez amusant parce que vous opposez ce concept, le mouvement, au FN. Mm-hmm. Or, s'il y a quelque chose que, en sciences politiques, on va dire, on va opposer au mouvement, c'est pas le FN qu'on qualifie de conservateur, pour pas dire de réactionnaire, mais c'est plutôt le progrès. Et le progrès qui est incarné depuis toujours par la gauche, socialiste, communiste, puisque les communistes ont même dit pendant des années qu'ils étaient, qu'ils représentaient les forces de progrès. Alors, raison pour laquelle la droite ne pouvait pas se revendiquer progressiste, elle a cherché tous les noms possibles et imaginables, Rassemblement, le RPR, Union, l'UDR, UMP, Mouvement, mais dans quel sens ? Dans n'importe quel sens, dans tous les sens, vous êtes un vrai papillon, mais pas dans le sens du progrès. Donc vous êtes tout sauf progressiste. Je vais pas vous qualifier de réactionnaire, non. Parce que vous n'êtes pas gaulliste quand même, mais de conservateur.
Je suis un réformateur. Je fais partie de ces gens qui pensent que le pays doit avancer et apporter des solutions concrètes. Et je fais partie d'une famille politique où une de nos valeurs, c'est à la fois l'ordre et ce mouvement qui n'est ni purement conservateur, simplement on garde nos bases, nos valeurs et une certaine idée de ce qu'est la France, et en même temps d'une famille politique qui n'est pas là en train de dire le progrès, le progrès, le progrès. Tout à l'heure,
Quelle idée vous avez de la France, pardon ? Ouais. Une certaine idée de la France. Ça, c'est du De Gaulle, ça. J'ai une certaine idée de la France. Alors, vous avez quoi comme certaine idée de la France ?
Moi, j'ai l'idée d'une France qui tient son rang dans au niveau mondial. Et j'ai l'idée d'une France qui est leader, qui n'est pas simplement suiveur d'Angela Merkel.
Ah j'ai non, c'était le petit Playmobil, ça, qui était le suiveur. Le petit Nicolas.
Ouais, moi, je ne l'ai pas conçu. Je l'ai pas vu comme ça.
C'est comme ça que Merkel l'appelait, mon petit Playmobil.
Je ne l'ai pas vu comme un suiveur. Je l'ai vu comme quelqu'un qui a l'idée, l'Union européenne, dans le traité de Lisbonne, en matière de relations internationales, la présidence de l'Union européenne sous Sarkozy, c'est le moment où ça a le mieux marché. Mais bon, après, je ne suis pas là pour faire le bilan de Sarkozy, je suis là pour vous parler du local. Mais vous dire ce qu'est le mouvement pour moi, c'est la volonté et la capacité de réformer.
Bon, alors ça, ok, et puis bon, votre certaine idée de la France, d'après ce que vous avez dit, je me demande qu'à quel point, mais vous allez me répondre, vous êtes zémourien.
Ah, je ne suis pas zémourien.
Ah, vous l'aimez pas celui-là ?
Non, je n'ai rien contre lui. Il faut toujours des agitateurs d'idées. J'en ai connu à différents moments.
Vous préférez Natacha Polony ?
Ah, je la trouve intéressante. Après, je suis. Ma petite amie Athénaïs regarde davantage On n'est pas couché que moi. Mais je ne suis pas zémourien particulièrement. Je n'ai pas cette vision de la France où, forcément, l'idée du grand remplacement, je n'y crois pas. Par contre, il faut savoir rassurer les personnes qui y croient. Et il faut savoir leur donner du concret pour rassurer ces personnes-là. Il faut les entendre, parce que si nous ne les entendons pas, c'est le Front National qui en profite.
Bon, alors, au-delà des départementales, qui sont les 22 et 29 mars, donc d'ici un mois, il y a les régionales qui se profilent, avec des régionales. Alors là, si déjà pour les départementales, on ne se connaît pas les règles du jeu, parce qu'on ne sait pas exactement comment ça va se passer, les futurs pouvoirs, etc. Alors là, pour les régionales, c'est un bordel sans nom, puisque on sait que maintenant c'est acté, on sera dans une région dont on ne connaît même pas le nom, on ne sait même pas comment on va s'appeler, on va s'appeler du con, du chemin long, on ne sait pas comment on va s'appeler. Quels seront les pouvoirs de cette région-là ? On ne sait pas. On ne sait même pas exactement les contours de la région, parce que il semblerait que les départements limitrophes, par exemple le Gard, pourraient très bien dire, suite à un référendum local, bah non, on n'a pas envie d'être dans ce bidule-là, on préfère être en Provence ou je ne sais trop quoi. Donc on n'est même pas sûr que le Gard, par exemple, la Lozère, pour en prendre un autre exemple, veuille rester dans ce bidule-là. Dans ce contexte-là, il y a des élections en décembre. Quelle serait, selon vous, la bonne liste ou la meilleure liste pour l'UMP, pour les régionales, avec qui comme tête de liste parce que étant donné qu'en Languedoc, ça ne brille pas au niveau de la droite, peut-être que du côté de Toulouse, ça brillerait plus, j'en sais rien.
Tout d'abord, vous avez fait plusieurs séries de remarques sur les compétences. Ce n'est pas tout à fait vrai, on ne sait pas du tout à quelle sauce on va être mangé en matière de compétences. En matière de compétences, les départements auront l'intelligence sociale quand les régions auront l'intelligence économique et les communes la proximité. Donc on sait comment... Après, c'est des questions de... Les grandes lignes, on les connaît. Ensuite, c'est des questions d'organisation concrète.
Oui, mais par exemple, qui va payer la dette ? Bon, la dette du Languedoc est nettement plus importante que celle de Midi-Pyrénées. Donc la mutualisation, nous, Languedociens, on est contents. Bon. Le TER à 1 euro, ou cette espèce de mystification.
Ah, bon. Là, bon, le coup, c'est Joe la mystif.
Est-ce que ça va perdurer pour Toulouse ? L'ordinateur pour les gamins et tout, les livres scolaires gratuits, bon, etc., etc. Tout ça, ça va être mutualisé pour tout le monde ou pas ? On ne sait pas, quoi.
Il ne vous a pas échappé que cette réforme régionale se fera au moment d'une nouvelle élection. Et donc, c'est les personnes qui se présenteront à cette nouvelle élection qui proposeront leur projet.
Alors, c'est
et
qui ? Donc, ça ne se Alors, fera c'est pas. Qui ? C'est qui ? Bon, vous aurez Sorel en face de vous. Alors, face à Sorel, puisque vous souhaitiez débattre avec Sorel, on pourra vous inviter à ce moment-là, quand vous serez tête de liste régionale de l'UMP contre Sorel. Non ?
Vous me voyez grenouille qui se voit plus grosse que le bœuf. Moi, je ne me vois pas tête de liste au régional, contrairement à d'autres. Je vous rappelle juste cette...
Ah, cette c'est, non, non, c'est qui les autres qui se voient tête de liste ?
Une grenouille vit un bœuf qui lui sembla de belle taille. Elle, qui n'était pas grosse en tout comme un œuf, envieuse s'étend et s'enfle et se travaille. Je passe un petit détail. S'enfla si bien qu'elle creva. Eh bien, j'en vois qui promettait d'être à plein temps maire de Montpellier, qui s'enfle si vite qu'ils vont en crever. Eh bien, moi, je ne serai pas tête de liste au régional, je vous le dis.
Sébastien, le mystificateur, a traité Sorel d'enflure, quand même. Bon. Alors là, ça mérite quand même encore un petit jingle.
C'est ça, être focus. Si je perds, ce sera moi qui perdrai. Si je gagne, ce sera le PS qui gagnera.
Vous avez vu comme je suis malin et focus en plus.
Allez, on va aller encore un peu plus loin là-dedans. Vous affirmez sur votre blog, sur Internet, que nous sommes en guerre. Contre qui ? J'ai pas vu de déclaration de guerre, là. Si, visiblement, on a envoyé un porte-avions, là, un petit bateau, faire la guerre. Et puis, un petit bateau tout seul, là, qui se promène sur l'eau et parti faire la guerre. Donc, alors, on est en guerre contre qui, au fait ?
Vous faites référence à ce qui s'est passé le 7 janvier dernier, où j'ai pu dire que nous étions en guerre. Et c'est une réalité.
Et on est en guerre contre qui ? Contre les musulmans ? L'islam ?
On est en guerre
contre les islamistes ?
On est en guerre
contre Bélabas.
Surtout pas contre Bélabas. Vous voulez que je me fasse renier et que ma petite amie me quitte. Non, non, on n'est pas en guerre contre les musulmans. On est en guerre contre un gang terroriste qui prend l'islam en otage et qui déforme les propos d'une religion pour en faire un prétexte terroriste.
Vous avez été gaulliste, au moins.
Je suis de droite.
Bon, non, mais quand même. Terroriste, qu'est-ce que ça veut dire terroriste ? De Gaulle était qualifié par Pétain de terroriste, il a même été condamné à mort pour ça. En 1940, qu'est-ce qu'un terroriste, si ce n'est un résistant qui perd ?
Vous avez déjà regardé les vidéos sur Internet ?
Non, parce que ça ne m'intéresse pas et ça me dégoûte. Donc
je les ai regardées. Ouais. Et le but de ces vidéos, c'est de terroriser les populations. Je les ai regardés parce que je me disais, s'ils l'ont fait, c'est que j'ai eu cette curiosité. D'ailleurs, mon ordinateur doit être tracé parce que j'ai cherché un bon moment, c'était censuré. Et quand on voit les vidéos abjectes qui sont diffusées par ces groupes terroristes, on se rend compte que ce sont des personnes qui ont pour unique objectif de nous terroriser, pour nous inciter à essayer d'entrer dans une guerre frontale avec eux en stigmatisant, et en entrant dans une guerre frontale avec eux en stigmatisant une religion, on détruira complètement notre modèle social.
Si nous sommes en guerre, je le conçois tout à fait bien que nous sommes effectivement quelque part en guerre contre une certaine forme d'islam. L'islamisme, ça, enfin, on peut lui mettre le mot qu'on veut. Bon. Bref, faire la guerre à ces gens-là, c'est quelque part, et surtout quand on y envoie des troupes, un porte-avions, ça s'appelle faire une croisade. Le dernier qui était parti en porte-avions, c'était Saint-Louis. Enfin, c'était pas tout à fait un porte-avions, mais enfin, c'était un bateau, il partait avec moi, c'était à peu près la même chose. Et si on est en guerre, vous êtes jeune, moi non. Donc moi, de toute façon, je peux plus partir en guerre. Je suis réformé, moi. Hein. Vous, oui. Alors, si vous pouvez partir en croisade, je vous donne juste pour info. Il reste des places. Il y a un taxi de Brousse qui part de Lunel dans les jours qui viennent, direction la Syrie. Vous pouvez peut-être partager le billet ensemble. Pendant que les uns de jeunes lunellois iront faire le djihad, vous irez faire la croisade.
Je vais vous dire, je refuse complètement l'idée de dire que nous sommes en guerre contre l'islam. Et puisqu'il faut parler de ça, je refuse l'idée de dire que nous sommes en guerre, que c'est une guerre de religion. Parce que ça étaye le principe selon lequel on va être au bout d'un moment dans un choc de civilisation, ce que je récuse. On est en guerre contre un groupe de personnes déséquilibrées, droguées au captagon pour tenir les horreurs qu'ils commettent chaque jour, et qui au final essayent de terroriser le reste du monde. Eh bien moi je suis un occidental, un français, et je défendrai s'il le faut mon pays, mais je ne vais pas aller faire une guerre de religion. Et donc, comme ce n'est pas une guerre de religion, ce n'est pas une croisade.
Juste à la mode de Pasqua, vous voulez terroriser les terroristes ?
Ah ça ne me dérangerait pas. On pouvait, à chaque fois que tous ceux qu'on voit dans les vidéos à visage découvert, les renvoyer chez eux correctement et vite fait, bien fait, ça ne me poserait aucun problème. Vous savez ce qui fait la force de la Russie actuellement ? C'est que lorsqu'ils sont menacés, ils promettent à leurs opposants de les renvoyer en petits morceaux dans leur famille. Eh bien là, ça dissuade tout de suite. Il faut au bout d'un mois avoir une politique ferme avec ceux qui nous attaquent. Moi, je ne supporte pas qu'on soit menacé. Et c'est pour ça que je dis qu'on est en guerre. On est en guerre contre un groupe terroriste.
Alors vous avez vous-même
déséquilibré.
Vous-même évoqué, là, il y a deux minutes, Charlie, ce qui s'était passé le 7 janvier, etc. Bon, Charlie Hebdo, c'est quoi concrètement ? C'était le bébé de Harakiri. Mmh. Un petit bébé, un peu assagi. Mais enfin, toujours est-il que Harakiri a vomi, dégueulé toute sa vie l'ordre, les flics, la droite, les élections piège à con, les grenouilles de Bénitier et j'en passe. Comment est-ce que vous pouvez, vous, avoir l'affront de proclamer « je suis Charlie » ? Non, vous n'avez pas le droit.
Ouais, quand on dit « je suis Charlie », ça va. C'est pas simplement dire que que j'épouse les idées. C'est pas dire « je suis toute la caricature et tous les propos de Charlie Hebdo et de Harakiri. »
Et puis ça se mérite en plus. N'importe dessinateur de presse qui veut. Moi, je suis assez d'accord avec, même totalement d'accord avec l'essentiel plutôt de Harakiri que Charlie Hebdo d'ailleurs. Bon, mais jamais je ne prétendrai dire « je suis Charlie ». J'ai pas le niveau.
Non, ça veut pas dire ça. Alors, si vous ne dites pas « je suis Charlie », c'est que peut-être vous n'avez pas entendu le message de la même façon que moi.
Moi, je parle le français qui est écrit dans le dictionnaire, le bon sens des mots. Je suis, c'est lettre, Charlie, non, mais je suis Yves.
Je suis Sébastien Vallone.
Et quand je suis mystificateur, je suis loup.
Non, je suis Sébastien Vallone. Simplement, dire je suis Charlie, ça veut aussi dire que je suis prêt à me mettre en danger pour permettre à d'autres de continuer de jouir de leur liberté d'écrire, de leur liberté d'expression. Et si on n'est pas capable de prendre des risques et de se mettre soi-même, de s'exposer soi-même pour permettre à d'autres et pour permettre aux gens qui vivent chez nous et qui épousent la République de pouvoir critiquer, de pouvoir s'exprimer, de pouvoir penser, alors on renonce à notre modèle.
Dernière chose, une petite question rapide, la réponse. Y a-t-il des limites à la liberté ? Autrement dit, est-ce qu'il faut brûler Dieudonné et Roland Dumas ?
La liberté d'expression, sa limite, à mes yeux, c'est lorsqu'elle peut viser à détruire l'autre ou à lui nuire, explicitement. Lui nuire à sa réputation, s'amuser, se moquer, etc., c'est une chose. Mais quand elle vise à détruire l'autre, là, il y a un vrai risque. Et quand je vois les propos de Roland Dumas, quand on sait l'histoire qui est la nôtre, et il n'y a pas si longtemps, bon, j'étais pas né, mais c'était il n'y a pas si longtemps, eh bien, je trouve que c'est tout à fait regrettable, mais c'est les propos d'un ministre, d'un président qui a reçu la Francisque.
Ça, c'est clair. Alors, on va passer maintenant à notre dernière petite séquence après un jingle. Bon, eh bien, on va passer à cette petite rubrique que j'ai appelée l'Évangile. Et là, ça va être aujourd'hui l'Évangile selon Saint Sébastien. Cher jeune loup, je vous invite à nous délivrer votre bonne parole, votre Évangile. On appellera ça l'Évangile selon Saint Sébastien. On va vous écouter religieusement une minute. Celle de Monsieur Cyclopède, par exemple. À vous, la bonne parole. Qu'est-ce que vous avez envie de dire ?
Vous savez que Saint Sébastien est né à Narbonne, dans l'Aude. Et qu'il a été tué pour avoir... C'était un soldat romain qui a été tué pour avoir aidé des catholiques. Et c'est comme ça qu'il est devenu Saint-Sébastien, en prenant quelques flèches. Et il a été tué parce qu'il a voulu aider des personnes qui lui semblaient en situation de faiblesse. Et je crois pas qu'il avait pas l'étiquette du PS. Il était simplement un homme de bon sens. Et un homme qui avait du cœur. Et ça... Il n'y a pas besoin d'être de gauche pour avoir du cœur. Je m'appelle Sébastien, et comme d'autres avant moi, je me suis engagé pour aider les autres. Et je me suis engagé en politique pour faire évoluer ma cité. Et si je suis de droite, c'est pour la simple raison que je crois en l'ordre et au mouvement et au concret. Et qu'aujourd'hui, je n'ai rien vu de concret ni dans la politique gouvernementale, ni dans les politiques menées au niveau local. Voilà pourquoi je suis de droite. Et si je me présente aux élections départementales du 22 et 29 mars avec Aline Bouix, avec Guillaume Cousinier et avec Séverine Cabriac, c'est pour arriver à porter un message de renouveau pour Montpellier. D'ordre, de concret et de mouvement où on va arriver, où on va réformer la première marche sur le département et où on réformera progressivement l'ensemble des collectivités locales qui sont ici dans notre belle région.
Bon, il faudra qu'on invite une autre fois bébé Macron avec bébé Avalon. Parce que je comprenne c'est quoi la différence entre les deux. Je ne suis pas sûr d'avoir compris. Parce que d'ailleurs, la loi Macron, c'est pour ça que visiblement, il y a une poignée d'UMP qui l'aurait volontiers voté, alors que justement, une grosse poignée de socialistes aurait bien refusé vraiment de la voter. Enfin, c'est, bon, tout ça n'est pas complètement clair, mais il va rester encore d'autres émissions pour éclaircir tout ça. Ité, missa est, pour l'instant. Mes bien chers frères, mes bien chères sœurs, dupeurs et dupés, éteignez vos radios, télé et autres instruments médiatiques et dormez en paix jusqu'à la semaine prochaine. Ciao.
That's it.
Toi-même.